Aujourd'hui, point de conversation de type Inception avec Steven Boivin et Marie-Hélène Fredette-Assad de Transistor Média. Dans ce podcast, on jase en effet de podcasts avec des podcasteurs qui produisent pour les autres des podcasts, tout en trouvant le temps d'organiser On The Side, un festival mettant de l'avant, vous l'aurez deviné, le podcast. Bon podcast.
Peut-être pour débuter, me parler un peu de chacun d'entre vous, votre background, d'où vous venez, puis on parlera de là où vous êtes aujourd'hui.
Cool. Ben en fait, on est à la base trois musiciens. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, les trois. Ah ouais? On est trois musiciens de la région d'Outaouais. Puis on a pris des chemins bon différents dans différents objectifs tout au long de notre carrière et évolution d'adulte. Moi, Steven particulièrement, je me suis lancé plus dans la. Au départ, j'ai fait mes études en technique de son et enregistrement dans l'espoir de partir un studio de musique avant de savoir que tout. Le numérique s'en venait. Par la suite, je me suis lancé un peu plus dans la gestion d'événements. Fait que ça a fait en sorte que j'ai créé une espèce de background événementiel, musical, enregistrement, qui a touché un peu à tout. Mais j'avais aussi fait, avant ça, une formation en radiodiffusion à Cité collégiale. J'avais comme un peu perdu intérêt avec la radio parce qu'on nous guidait vraiment vers la radio commerciale puis comment bien lire la météo. Donc, c'est ça. Je suis allé plus en musique. Puis par la suite, moi puis Julien, on s'est re-rencontrés à cause de la musique. Mais on a créé un premier projet qui s'appelle En direct 2, qui est un podcast qui était diffusé par Première Plus et Radio-Canada. Dans le fond, En direct 2, c'était une radio-fiction un peu des modèles des années 70, là, où est-ce qu'on racontait l'histoire de petits villages du Québec. Mais c'est un documentaire, finalement. Là, fait qu'on racontait les histoires avec un peu d'ironie puis d'humour.
As-tu dit un documentaire ou j'ai entendu un documentaire?
Non, c'est vrai.
Ouais, documentaire.
J'adore ça.
Ouais, dans cette voie-là des fake news. On est un peu les précurseurs de la fake news. Puis ensuite, on a fondé le festival Transistor, qui est le festival de la radio numérique, qui essaie de justement mettre en lumière ces projets-là de balado-diffusion. Et c'est là un peu que Marie-Hélène s'est joint à nous.
Moi, ça va être pas mal moins long, mais à la base, je suis musicienne.
Okay.
J'ai travaillé pendant 16 ans, moi, dans le domaine de l'éducation. J'ai enseigné la musique. J'ai dirigé du théâtre pour jeunes pendant toutes ces années-là aussi. Et cette année, j'avais pris la décision de prendre une année sabbatique de cet emploi-là pour aller faire autre chose. Et finalement, les choses se sont bousculées et je suis devenue partenaire avec les garçons pour Transistor. Puis moi, je suis arrivée dans l'aventure un peu parce que je voulais créer mon propre balado qui s'appelle FDS, qui s'intéresse aux femmes dans l'industrie musicale.
Okay.
Puis en même temps, en ce moment, je travaille avec eux sur la production de Transistor Media aussi.
Toi, Marie-Hélène, t'en consommes-tu des podcasts avant de plonger dans l'aventure avec tes boys?
J'ai commencé à en écouter beaucoup en travaillant. Puis j'ai vraiment trippé sur ça parce que j'avais l'impression de continuer à apprendre des trucs de culture générale. C'est là-dessus que j'ai accroché. Puis c'est comme ça que je me suis dit, moi aussi, je serais capable peut-être d'en faire.
Probablement que les podcasts, ça a été la première bébelle en dehors des médias traditionnels. Mais 10-15 ans après, on dirait que là, ça a comme un reboom ou un vrai boom. C'est-tu parti pour vraiment pogner cette fois-ci?
Moi, je pense que oui. Parce que moi, je me rappelle à l'époque où j'écoutais des radios sur Winamp pour des affaires de même. Je me rappelle de cette époque-là où il y avait ces gens-là qui faisaient jouer de la musique ou qui parlaient dans un micro. Puis là, on a avec le numérique, on a comme le potentiel. Puis c'est un peu la même chose. T'sais, avant, pour faire un album, ça prenait des bobines, des rubans, des ci, des ça, un studio, puis une pièce. Maintenant, on a tous les outils technologiques pour créer ce qu'on avait en tête, peut-être à l'époque, mais qu'on pouvait pas le faire. Fait que de créer un documentaire audio de 5 épisodes de 25 minutes, à l'époque, avec tous les outils, personne n'aurait pu se permettre de faire ça et d'avoir une certaine qualité qui va se comparer avec ce que les médias traditionnels font. Le fait que le numérique soit plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde, ça crée plus de contenu intéressant. Puis là, on peut compétitionner avec ce qui est offert dans les médias traditionnels. Au même titre que YouTube, pour moi, dépasse la télé, ou je dis YouTube, mais tout ce qui est disponible sur Internet, ça dépasse la télé, ben, je pense que c'est la même chose pour la radio. C'est juste une évidence que c'est la façon de consommer qui change, de pouvoir choisir ce qu'on écoute, quand on l'écoute, puis de ne pas se faire imposer une limite de temps par rapport à ça. C'est vraiment ce qui distingue le podcast de la radio. Fait que c'est pour cette raison-là, je pense, au même titre que Netflix fonctionne, le podcast va ultimement fonctionner. T'sais.
Il arrive quand même à un moment où, pendant ce temps-là, les YouTubers ont commencé à donner le marché, les blogueurs, il y en a, en voici, en voilà. Les podcasts se retrouvent-tu en situation de compétition avec ces autres plateformes où des gens peuvent s'exprimer?
Bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours tout à fait la même clientèle.
C'est ça, hein?
Moi, j'ai travaillé longtemps avec des ados et eux, effectivement, les podcasts, ils n'étaient pas particulièrement rendus là, mais les YouTubers, ils les connaissent tous. Puis nous, je pense que comme adultes, s'asseoir devant notre écran puis regarder quelqu'un nous parler pendant 20 minutes, moi, j'ai pas le temps. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas le temps.
Déjà, ça fait 10 minutes que vous me regardez, vous devez être tanné en tabarouette.
On regarde autre chose. Hein. On a une vidéo qui roule en même temps.
Le mettre sur l'écran? J'aimerais ça le voir.
Mais moi, quand je conduis, quand je travaille, je vais me mettre un podcast puis je vais faire quelque chose en même temps quand je cuisine ou peu importe. Donc, mais il faut aussi comprendre que c'est pas tout à fait c'est pas le même métier et c'est pas le même temps que ça prend. D'un podcast à l'autre, c'est pas le même travail, c'est pas le même contenu, c'est pas la même quantité de montage. Puis en ce moment, nous, on est dans un gros crunch de montage pour un projet documentaire. Puis c'est là qu'on réalise aussi, il y a une différence entre une discussion entre quatre personnes sur un sujet X, dont on enlève des bouts qu'on a trouvés un petit peu plates pour rendre ça un peu plus serré.
Comme on fait présentement.
Ouais. Et un podcast documentaire où on a pris, en 5 épisodes, une trentaine d'entrevues, on doit raconter une histoire, on est à la virgule près, on est à l'élément sonore près qui tombe au bon moment pour créer une ambiance. On est, encore une fois, si on veut retourner à la télévision comme comparaison, il y a une différence entre, tu sais, faire jouer... une discussion entre deux personnes, l'antichambre où une gang de gars parle de hockey, puis après ça, une fiction lourde réalisée par Jean-Marc Vallée, genre. T'sais, moi, c'est ça, je suis amie avec Gabriel Mallet qui a fait le cover du dernier Grenier. Puis on a d'excellentes discussions là-dessus sur chacun de notre travail. Puis c'est hyper intéressant. Puis je pense que des fois, il y a peut-être des trucs qui vont finir par se croiser avec les médias sociaux puis ce que nous on fait. Mais effectivement, je pense qu'on s'adresse à peut-être deux clientèles. Puis on n'est pas tout à fait au... En fait, je ne nous vois pas comme de la compétition pantoute. Pas du tout.
Ouais, puis je pense que le game changer du podcast, c'est vraiment quand les annonceurs vont comprendre l'impact que ça a. T'sais. Moi, je regarde un journal, le journal local ici, c'est 3 000$ pour avoir une pub, une page, une fois. Fait que je suis un entrepreneur, puis je mets 10 pages dans le journal dans l'année, c'est 30 000$. Pour 30 000$, je peux avoir ma propre émission qui parle de moi pendant vraiment longtemps. Les annonceurs, c'est des gens qui viennent d'une certaine époque aussi, d'une manière, tu sais. Un moment donné, organiquement, ça va se faire, ce transfert-là, parce que, tu sais, Ford met beaucoup d'argent dans la télé, dans les journaux, dans ces médias-là, la création de contenu, puis je parle pas nécessairement de contenu sponsorisé, là, où est-ce que c'est clairement une pub pour quelqu'un, mais juste de parler de char en général, ça peut être bénéfique pour Ford, tu sais. D'investir dans la création de contenu au lieu de dans de la publicité, selon moi, ça va être la nouvelle façon pour les annonceurs de se faire connaître.
Avez-vous l'impression que le podcast se bat pas avec les mêmes outils, la même visibilité que YouTube de ce monde, par exemple? C'est un autre univers, on dirait qu'il est plus demandant, moins courant peut-être. Un vidéo YouTube, ma mère est morte, mais ma mère, elle savait c'était quoi YouTube. Mm-hmm. Un podcast, je suis même pas sûr qu'elle saurait où trouver ça. Tu sais, il y a comme cette visibilité-là de plateforme qui est pas... La même chose, oui, on entend parler de balado-diffusion, mais J'ai l'impression que peut-être dans la tête des gens, c'est un nom chic de Radio-Canada pour crisser leurs émissions sur le web, that's all. Fait que c'est une façon de bypasser justement le rendez-vous manqué auquel on ne tient plus de nos jours. À la base même, en termes de plateforme, on est-tu déjà bien équipé, c'est facile?
C'est sûr que non, mais c'est une question de temps. Y a pas, d'abord, il n'y a pas une plateforme référence. Il n'y a pas un poste auquel lequel tu mets, puis il n'y a pas une façon de consommer, fait que ça devient difficile, il y a tellement de choix.
Ah ouais.
Ça, c'est certain qu'on n'est pas rendu là, puis c'est sûr que ça nuit, mais ça l'aide pas à faire connaître le podcast. Mm-hmm. Mais je pense que ça, c'est une question de temps. T'sais, quand tu dis que ta mère connaissait YouTube, mais il y a 10 ans, peut-être pas, mais YouTube existait quand même 5 ans avant, tu sais.
Il y avait des podcasts le 10 ans, je sais pas, tu sais, c'est-tu le fait que, je trouve ça drôle que vous me dites que vous soyez trois musiciens à la base, y a-tu du monde qui sont visuels, ils ont les YouTube, il y a du monde qui est très audio pour... Faut-tu être un consommateur de radio pour triper podcast? Ma blonde, elle capote sa radio, elle, la radio, Radio-Can joue, c'est dans ses oreilles, elle est là tout le temps, elle... C'est la clientèle parfaite pour des podcasts. Elle aime ça, écouter des affaires pendant qu'elle fait d'autres affaires.
Mais c'est un mode de vie, le podcast. Ça devient rapidement, ça t'accompagne. Lorsque tu embarques là-dedans, ça t'accompagne dans des moments de travail, dans des moments de vie. Mais on n'est pas naïf non plus, là. Moi, à partir du moment où, dans les 6 derniers mois, j'ai passé plus de temps à montrer à des gens comment aller écouter mon podcast ou aller l'écouter... que à parler du contenu.
Ah ouais.
Mais dans les 6 derniers mois, ce que je veux dire, c'est que déjà là, je vois une grande amélioration au niveau de la connaissance du podcast. Mais effectivement, si je dois montrer à tout le monde comment écouter le podcast, ben j'ai pas à montrer à tout le monde comment écouter une vidéo YouTube. Puis on a tout ce chemin-là aussi qu'on a à faire en plus de créer du contenu. Puis ça, on est conscient de ça aussi.
Puis le podcast, ça fait longtemps, puis ça a longtemps été des gens qui parlent dans leur micro, dans leur cuisine, dans leur chambre, tout ça, tu sais. Tiens, écoute ça, puis là, un autre heure, puis un autre heure de moi qui dit des affaires. Mm. Moi, j'aime que y ait un travail de recherche, tu sais, sans que ça soit une production de 100 000 léchés, mais je veux pas non plus que tu m'aies chié ton premier draft, t'es comme, bah, c'était ça, puis en voulais un autre, puis en voulais un autre. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui a été... qui peut repousser des gens par rapport au podcast, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi dans le podcast.
Tu sais, on a parlé du fait qu'on est trois des musiciens, là, mais ça veut dire beaucoup, dans le fond, trois personnes qui ont pensé, à un moment donné, qu'ils allaient gagner leur vie avec leur band, là. Mais tu sais, ce genre de mentalité-là, ce courage-là, des fois, qui fait qu'on est juste assez fou pour se lancer dans une affaire de même aussi, puis que ben on a cet esprit-là de bande, de communautaire, de travailler en groupe, puis qu'on essaie, puis on se trouve très chanceux de venir travailler ici le matin, tu sais. Vraiment.
On a effleuré la monétisation de la chose. Comment on vit dans un podcast? La beauté de la chose, si j'ai un canal YouTube au-delà de sponsorship éventuel. Si je peigne, je me fais toujours à croire que plus j'ai de fans, plus je vais faire des revenus AdSense. Comment ça marche? C'est quoi les différentes façons pour un podcasteur d'éventuellement
vivre? Ben, il y a plusieurs, dans vivre, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui en vivent. Au même titre qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui vivent de leur art au Québec, tu sais, parce que c'est une réalité où est-ce qu'on est dans une langue qui le français, il y a moins de gens que l'anglais, par exemple. Puis dans vivre, déjà que c'est un modèle qui n'est pas encore... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire, mais ça fait en sorte que c'est un peu divisé en ce moment, puis tout le monde n'est pas rendu là.
C'est quoi les différents moyens pour aller chercher
trois.
Des
sous? On peut en nommer trois, tu sais. Comme en ce moment, on vit les trois en ce moment, chez Transistor. Mmh. La première, tu as un organisme, une organisation, un festival, n'importe quoi, qui a de l'argent à investir là-dedans, qui veut du contenu.
Créer du contenu.
Créer du contenu et qui nous fait signe, et nous, on va élaborer un projet ensemble. La deuxième, c'est on fait un pitch, on a un truc qui nous tente, on va aller voir
un diffuseur
par exemple. Puis lui va embarquer ou pas, puis il va nous dire, ben ouais, mais fais-le avec 10 000 de moins, puis on va dire, ok, mais ça va être 4 épisodes au lieu de 6, tu sais.
Les principaux enjeux de la balado-diffusion dans les trois prochaines années, selon vous?
Je pense que c'est de faire connaître le podcast, c'est sûr, de faire connaître comment on écoute ça pour créer cette habitude-là pour les gens. Puis de l'autre côté aussi, c'est de trouver des modèles d'affaires qui vont faire en sorte que c'est plus simple pour les annonceurs de comprendre comment on investit dans la publicité pour les podcasts ou pour la création de contenu. Puis je vois déjà que les podcasts, Mike Ward en parle vraiment ouvertement, puis il est ouvert, il contribue beaucoup aussi à ces discussions-là sur comment on va développer ce modèle-là. T'sais, est-ce qu'il va y avoir y a des gens qui pensent avoir un YouTube de podcasts francophones, québécois. Je pense que juste si iTunes avait une section franco, ça serait déjà pas pire. T'sais, dans le sens où est-ce qu'on rassemble le québécois ensemble, puis on se fait des playlists. Puis, oui, il y a une chose que tu disais qui était vraie, c'est-à-dire que ton podcast peut se retrouver sur iTunes, mais il est dans le fond, personne ne va le trouver, à moins qu'il ait le nom exact, puis qu'il tape dans la recherche. C'est un peu ces modèles-là qu'il va falloir mettre en place, mais on ne peut pas les forcer. Il y a beaucoup de gens qui baladent au Québec, il y a beaucoup de gens qui mettent ces efforts-là, mais un moment donné, faut que tout le monde travaille ensemble. T'sais, il ne peut pas avoir un qui a le succès, puis les autres vont... T'sais, c'est vraiment tout le monde va travailler ensemble pour faire connaître cette courroie de transmission-là qui est le podcast.
Puis ça, on va en prendre un ou deux podcasts qui font vraiment parler. Ça va en prendre, ça prend un, tu sais, on fait longtemps qu'on dit, là, ça prend un serial, ça prend un truc qui fait que les gens vont s'intéresser à ça. Puis après ça, chez Transistor, on espère que c'est nous qui allons le créer.
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier aux Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!
Ah, que c'est nous qui allons le créer!